like that. So check out the role.
Our part of love and care. Better respect the players' pay.
But that's what I like about this.
This is the joint meeting of the ICANN board and contracted party house on March 8th, 2016 in the Atlas Room from 1515 to 1645.
All right, let's get started, everybody. Allez, on va commencer.
I mean, I'm happy to say very little and let you, let everybody else do all the talking.
As do I. I'd like to introduce it and then step away and let the others jump in.
Seated to
I've noticed that, and it does disturb me.
Hey there, how you doing?
How are you?
So this is listed as a joint meeting between the ICANN.
Donc nous avons là une réunion conjointe entre les parties contractantes, mais on dirait en fait plutôt une partie dans le sens d'une grande fête plutôt que les différentes parties. Bon, c'était pour rigoler. En fait, on essaye d'utiliser ce genre de séance pour des pour avoir du contenu, pour avoir une interaction. Et puis, c'est vrai qu'on est content de se voir. Donc, il faut passer le temps de le reconnaître. Mais quand même, nous avons peu de temps. Donc, il est bien de se concentrer sur la discussion. Donc, ceci étant, je vais passer la parole à qui ? Qui dirige la réunion ? À Paul. D'accord. Allez-y. Merci, Steve. Paul, du groupe des opérateurs de registre. Donc, pour être clair en termes de procédure, est-ce qu'on alterne, étant donné que les deux parties contractantes sont présentes, et puis que le conseil d'administration a des questions également pour nous, ou comment souhaitez-vous procéder ? Comme vous voulez. Steve Crocker au micro. D'une manière générale, ce qui se passe, c'est que nous écoutons, et si nous avons le temps, nous vous indiquons quelles sont nos questions. Mais c'est à vous de voir. Pas le micro, c'est bien, compris. Donc, je voudrais d'abord présenter le premier thème dont nous allons parler. Donc, je vais essayer de procéder avec précaution parce que les deux groupes, indépendamment ainsi qu'ensemble aujourd'hui, ont eu beaucoup de discussions sur ces questions. Et donc, nous souhaitons réellement avoir un échange fructueux avec le Conseil. Nous avons demandé à d'autres collègues de prendre la parole, soit pour les personnes qui sont ici à la table et pour des personnes qui sont dans la salle. Et il y a pas mal de sous-thèmes. Donc, vous allez voir un petit peu comment tout ceci s'imbrique. Donc, pour ce qui est des questions que nous avons posées au Conseil d'administration, vous verrez qu'elles sont un petit peu liées les unes les autres. Donc, première, le point de vue du conseil d'administration sur les priorités stratégiques de la CAN. Oui, il y a un plan stratégique, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'analyser avec les membres du conseil d'administration qui sont présents aujourd'hui leur point de vue sur les priorités de la CAN à court terme, au cours des 3 années à venir. Donc, de la même manière, ceci est lié à la deuxième question, objectifs qui sont définis pour le nouveau PDG. Je ne sais pas si notre nouveau PDG est toujours là. Très bien. Steve au micro. Effectivement, je voulais mettre en lien les deux questions. Je voulais pouvoir demander à notre prochain PDG de se mettre debout, justement, notre prochain dirigeant, n'est-ce pas? Donc, voilà. Si vous voulez bien vous lever. Donc, nous sommes très heureux de vous représenter à nouveau, Monsieur Joran Marby. Et donc, l'idée, c'est qu'il nous rejoindra en tant que réellement employé au mois suivant, au mois prochain. Et donc, il ne sera en fait réellement PDG. Il ne prendra ses fonctions que fin mai. Donc, il sera là de manière provisoire. Et donc, Akram Atala commencera ce week-end en tant que PDG intérimaire, lui, comme il l'a déjà fait d'ailleurs. Et nous, on l'appelle Monsieur Stabilité, Akram. Donc, pour ce qui est des deux questions que vous avez posées, nous avons en fait une conversation double qui est en cours, selon laquelle nous définissons les tâches, nous organisons les relations avec le prochain PDG et en même temps, nous définissons les priorités stratégiques ensemble. Il y a plusieurs membres du Conseil qui sont présents et chacun d'entre nous pourrait vous donner une réponse un petit peu différente, mais je vais passer la parole à Bruce et à Sherine pour qu'ils puissent vous parler des priorités stratégiques. Et ensuite, j'essaierai d'organiser un petit peu leurs différences entre les deux réponses. Donc, on va commencer par Sherine. Sherine au micro. Donc, commençons la conversation par la transition elle-même. Donc, au cours des deux années passées, nous avons conçu un nouveau modèle de gouvernance. Nous espérons qu'il sera approuvé vendredi, ou plutôt jeudi, pardon. Et ensuite, il y aura une période d'élaboration des statuts et enfin la mise en œuvre. Mais réellement, au cours des deux années qui suivront, il y aura un test du modèle. Cela veut dire que pour tous, il y aura de nouvelles méthodes de travail. Le comportement du Conseil, le comportement de la communauté, il y aura les pouvoirs, la responsabilité, la redevabilité. Tout ceci sera nouveau. C'est un petit peu comme si nous avions conçu une nouvelle voiture et qu'on allait l'essayer sur une route. Donc, il nous faudra à tous apprendre à fonctionner avec ce nouveau modèle. Et donc, une des priorités du Conseil, c'est de reconnaître que le Conseil ne peut pas continuer de travailler comme par le passé. Il faudra qu'il s'ajuste, il faudra qu'il travaille différemment. Et ça va être vraiment une partie importante de notre travail. Le monde sera nouveau pour nous et nous allons devoir agir différemment. Et à mon avis, c'est une de nos plus importantes priorités dans un avenir proche. Bruce, vous souhaitez ajouter quelque chose? Bruce, au micro. Ce qui est déjà bien, c'est que nous avons un plan stratégique qui est publié. Donc, vous pouvez aller sur notre site et vous pourrez voir quelles sont nos priorités stratégiques. Elles sont présentes. Mais il y a des choses qui vont se présenter, de toute évidence, à court terme. Et il y a eu une question du comité consultatif sur la sécurité et la stabilité. Et ils nous ont recommandé d'aller de l'avant avec le roulement de clés. Il y a beaucoup de choses nouvelles au niveau des bureaux d'enregistrement, la mondialisation des membres du Conseil qui arrivent, la concentration des bureaux d'enregistrement. Il y a également la question de l'excellence opérationnelle, il y a la question technique, la fourniture de services aussi à la communauté des opérateurs et des bureaux. Donc, si vous regardez, en fait, sur notre site web, vous avez le plan stratégique. Steve au micro, merci. Il y a, en fait, une interaction entre la stratégie et les tactiques. Et parfois, c'est intéressant. Et je crois que ce qui va se passer au cours des années à venir va surtout être lié à un ajustement du travail de manière à ce que les choses soient faites de manière plus transparente. Et donc, je crois que du point de vue tactique et stratégique, une des modifications, ce sera un ajustement. Ce n'est pas un changement total, mais ce sera un effet qui sera un petit peu qui se fera sentir comme nous l'avons mentionné. Nous sommes impliqués dans un processus assez intense depuis un certain nombre d'années. Nous prenons en considération notre modèle de gouvernance, etc. Mon point de vue, c'est que par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce sur quoi nous nous concentrons, nous n'avons pas inclus, nous avons peut-être raté certaines des choses internes qui devront être ajustées. Il y aura des modifications subtiles et d'autres moins subtiles qui ne sont pas encore apparues. Et de mon point de vue, je vois déjà l'impact de cette modification de la gouvernance. ce n'est plus maintenant la situation que nous avions avant. La communauté va agir différemment, les gouvernements aussi, et une fois que les choses changeront, il y a certaines choses qui vont devenir plus visibles. Il y en a d'autres qui vont arrêter d'exister, d'autres qui vont se manifester. Donc moi, je m'attends à ce qu'on ait un ensemble d'ajustements à mettre en place sur la manière dont nous allons communiquer avec la communauté, dont la communauté va communiquer avec nous. Et dans 2 ans, si nous renouvelons notre conversation, si nous reprenons cette conversation, d'ailleurs, je serai partie dans 2 ans. Mais je crois que donc, dans 2 ans, les choses seront vraiment différentes. On vient justement de donner les instructions nécessaires à notre nouveau PDG, n'est-ce pas, Chérino Micro? Bruce a mentionné le plan stratégique, les priorités qui s'y trouvaient. J'ai parlé de la transition. Je crois également qu'il y a la question du coût. Et ça va être une question importante à l'avenir. Donc, il nous faut absolument bien maîtriser ce qui va se passer au niveau du marché en termes de revenus. Comment allons-nous gérer les coûts? Et il nous va falloir être très attentifs pour nous assurer de ne pas trop dépenser. Nous dépensons selon nos moyens en tant qu'organisation. Et je vois qu'il y a un sujet au point 3, donc nous y viendrons tout à l'heure. Mais je crois que c'est une question importante qui doit représenter une priorité pour nous en tant qu'organisation. Paul au micro. Est-il possible d'avoir une petite idée des changements opérationnels, au moins d'avoir une idée de ce à quoi vous vous attendez, ce que vous sentez qui va changer dans nos interactions avec vous? Steve au micro. Je crois que nous n'avons pas une liste que nous vous cacherions. La plupart des points sont publics, mais je vais vous en dire quelque chose de mon propre point de vue. Ce sur quoi je cherche à me focaliser, en tout cas depuis que je suis PDG, c'est de rationaliser nos réunions du Conseil, de manière à ce que nous n'ayons pas des discussions très détaillées, très ardues, mais que nous nous focalisions sur certains points. Et il est important que les choses soient visibles. Je crois qu'il existe une préoccupation tout à fait justifiée, comme quoi ce que nous faisons au sein du Conseil n'est pas toujours très visible. Donc, comment peut-on déballer tout ce qui est information pour les comités, les appels, etc., autres interactions? Et puis, il faut aussi démystifier, parce que ce que les gens imaginent au niveau du Conseil, ce n'est pas toujours ce qui se passe dans la réalité. Donc, voilà à quoi je faisais allusion. Donc, y a-t-il un plan détaillé? Pas encore. Mais nous y viendrons. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la quantité massive de travail qui est nécessaire pour faire avancer le processus de transition, la transition à laquelle nous nous attendons. Et d'ailleurs, d'ici jeudi, nous devrions avoir ces propositions de prêtes et de disponibles. Et nous sommes tout à fait prêts à les approuver et à les faire passer au gouvernement des États-Unis. Mais donc, tout de suite, cela veut dire qu'il y a une étape suivante. Donc, le gouvernement des États-Unis va s'occuper de ce qu'il a à faire et nous devons immédiatement nous occuper de la mise en œuvre, de la rédaction des statuts, etc. Et donc, cela va nous occuper pas mal. J'espère que, bien sûr, cela ne prendra pas trop longtemps. Nous espérons pouvoir avancer rapidement. Mais ensuite, donc, processus de mise en œuvre au bout des 90 jours qu'a le gouvernement, si tout va bien. Et ensuite, il y a la petite question de la piste 2. Comment gérons-nous le coût? Est-ce qu'il va être énorme? Donc, tout ceci est visible. Tout ceci est connu du public. Et entre-temps, nous avons toujours notre travail à faire. Donc, ça, c'est une autre couche du travail. Et donc, cela est important. Je ne me plains pas. Simplement, je vous donne un petit peu une idée de là où nous en sommes, là où nous allons. Alors, deuxième point, justement, les objectifs. Donc, le PDG, étant donné que Akram est là en tant que PDG intérimaire, vous avez fait allusion aux efficacités, au désir de fonctionner. Et donc, il serait bien de savoir quels ont été les objectifs qui ont été fixés pour le nouveau PDG. Steve, au micro. Nous n'avons pas beaucoup de détails à vous donner là-dessus, mais un des morceaux de ce puzzle, c'est donc de prendre cette question et de, en fait, l'inverser. Donc, pendant la période qui va commencer, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir la voie, de voir quels sont les points clés. Et je sais qu'il y en a des points comme des points clés. Et donc, un des points du processus d'intégration de Yoran, c'est de l'exposer, en fait, à différentes choses, de le mettre en contact direct. Et ce qui est positif, c'est qu'il est tout à fait prêt à cela. Il s'y attend. Je pense que ce sera très sain. Je pense qu'il est suffisamment fort pour résister à cette expérience et poursuivre de l'avant. Paul au micro. On va passer la parole à Jonathan. Jonathan au micro. Nous en avons parlé un petit peu et nous souhaitions vous donner davantage d'informations. Donc, Steve, ainsi que vous, les autres membres du Conseil, nous pensons que tout ceci est vital pour votre travail ainsi que pour le nôtre. Donc, on pourra revenir sur les détails, mais il est très utile d'avoir ces informations de disponibles. Nous avons parlé de manière générale, mais vous souhaitez donc avoir un point de vue spécifique, donc c'est très bien. Il existe une opportunité au niveau du conseil d'administration et du PDG parce que, comme vous le savez, nous dépendons de manière critique du travail efficace de l'ICANN, du fonctionnement efficace des systèmes opérationnels de l'ICANN. Et donc le GTD a été créé, cette division a été créée pendant la présence de FADI et donc nous nous appuyons beaucoup sur cette division pour notre développement. Nous sommes encouragés parce que nous avons entendu, nous avons un sommet GDD qui va avoir lieu en Amsterdam au mois de mai où les parties contractantes vont se rassembler justement pour parler non pas tant des politiques que des questions qui nous préoccupent, c'est-à-dire du fonctionnement de nos entreprises. Et si je comprends bien, vous avez alloqué ou en fait, pardon, vous avez choisi de vous retrouver à proximité. Donc, nous vous encourageons à passer un peu de votre temps avec nous sur place, à venir nous rencontrer. Je crois que Yoran est déjà au courant. Je crois que ce modèle est vital pour l'ICANN, mais nous avons également une relation unique avec l'ICANN, la relation de contrat. Donc, avec la venue de ce nouveau PDG, donc il faudrait penser à ces nouvelles priorités. C'est une opportunité, en fait, et nous vous invitons à avoir un dialogue direct avec les parties contractantes et à avoir un niveau de focalisation approprié sur nos entreprises, sur nos affaires qui, en fait, bien franchement, sont le moteur de l'industrie du DNS. Donc, j'aimerais travailler avec vous pour y arriver. Je crois que, justement, le moment est venu et j'attends avec impatience de rencontrer le nouveau CEO, Yoran.
This is Yoran.
Yoran au micro. Je serai à Amsterdam et je resterai. C'est la première annonce que je fais, d'ailleurs. C'est vraiment facile d'être applaudi ici, c'est bien. Ne vous y habituez pas, monsieur. Steve au micro. Il y a une question. Donc, le conseil d'administration se retrouvera à Amsterdam juste avant la réunion de la division GDD. Et donc, la question, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on n'avait pas un petit peu organisé les choses différemment. C'était simplement une question de calendrier. C'est pas que nous avons voulu éviter qui que ce soit. Ce n'était pas un plan majeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'était absolument pas suite à une réflexion intense, etc. C'était simplement des facteurs externes. Ceci étant, nous pouvons utiliser cette opportunité comme effectivement un point de vue intéressant à l'avenir à prendre en considération. Je n'ai pas suffisamment de données pour savoir ce qui pourra fonctionner, mais il est tout à fait possible que nous changions un petit peu notre approche à l'avenir. En tout cas, dans cette situation, le Conseil va se retrouver juste avant le sommet de la GDD et donc nous ferons notre possible pour que cette expérience soit constructive et positive.
Nouvel intervenant, Bob au micro. Oui, je suis déçue que le planning n'a pas été bien fait, que le blâme a été mis là-dessus. Ce n'est pas bon pour la participation dans le futur. J'encourage donc beaucoup plus de coopération, de coordination entre le bureau d'enregistrement, les opérateurs de registre et le conseil d'administration. Fadi était présent aux autres réunions, donc plus de communication est important. Je suis triste d'entendre dire que le planning n'était pas bon. Steve Crocker au micro. Ces circonstances n'étaient pas prévues. C'est un bon résultat en fait, mais c'était accidentel. Nous comprenons maintenant que c'est une bonne chose. Et nous utiliserons ça pour nous guider la prochaine fois, de façon à ce que cela ne se produise pas. Stéphane, au micro, pour les opérateurs de registre. Sur le sujet du partenariat, Jonathan, tout à l'heure, nous en a parlé. Comme vous savez, bientôt, vous allez un nouveau membre du conseil d'administration, parce que Bruce va partir après 9 ans de service. Donc, tout d'abord, nous devrions féliciter les efforts de Bruce pour ces 9 années. Et ensuite, je voudrais vous engager de traiter la prochaine personne que nous allons envoyer en tant que partenaire aussi. Michael et Nylon, soyez gentils avec eux, sont des gens délicats. Steve Crocker, je vais vous conseiller là-dessus. Je voudrais vous dire que il reste encore 2 réunions pour Bruce, donc il faut continuer. Il va donc continuer à travailler. Cela fait m'écaler au micro. Cela fait tellement longtemps qu'il est là que nous voulons lui en parler et puis nous voulons assurer qu'il parte. Sans blaguer. Il faut dire qu'il nous faut choisir un nouveau représentant pour le conseil d'administration et c'est un processus que nous prenons très au sérieux. Nous avons des candidats experts et qui se sont proposés pour jouer ce rôle et nous espérons vous dire qui l'on va choisir d'ici les semaines à venir. Nous espérons qu'ils vont pouvoir remplacer Bruce de façon adéquate, puisqu'il a fait du très bon travail depuis 9 ans et nous l'en remercions. Paul au micro. Oui, je ne sais pas où nous allons, de quoi nous allons parler maintenant. Peut-être avons-nous des questions de la part du public. Et que devons-nous faire maintenant? On va revenir sur le troisième sujet que l'on avait souligné. C'est un sujet qui est controversé. Il s'agit d'un sujet que nous avons sur la table depuis longtemps. Il s'agit de la planification du budget en fonction des changements à venir. Nous avons améliorer le processus de planning afin de récupérer plus d'informations plus tôt. Mais il reste des questions, des inquiétudes pour savoir comment ICANN investit ses ressources les relationnels sont opaques et il y a ainsi trois questions qui restent. La stratégie du conseil d'administration, qu'attend-il du nouveau PDG? Quel est le plan, le planning au niveau des finances? Nouvel intervenant. Shirin Chalabi, pardon. J'essaie de comprendre ce dernier thème. Je comprends, si je comprends bien, vous avez donc une inquiétude au sujet des dépenses de l'ICANN, que les dépenses de l'ICANN grandissent plus vite que les revenus eux-mêmes, dépassent les revenus. Que nous ne vous n'avons pas donné assez d'explications sur ces dépenses. Et la troisième chose, c'est que si les dépenses dépassent les revenus dans le temps, l'argent doit rentrer. Donc nous ne voulons pas que l'ICANN revienne vers vous et vous demande des coûts additionnels. Le nouvel intervenant, vous mettez en place un budget et ensuite vous nous demandez ce dont vous avez besoin. Rob Hall, au micro, vos revenus doivent toujours correspondre à vos dépenses selon votre contrat. Et c'est notre inquiétude, c'est que le montant du budget, vous devriez commencer avec le montant du budget. Cher Inchalabé, voilà, vous voulez donc savoir qu'est-ce que nous faisons, nous avons mis en place pour éviter ce genre de problème. En premier, nous essayons toujours de nous assurer que les dépenses pour n'importe quel budget de n'importe quelle année ne surpassent pas les revenus projetés. C'est donc très important. Nous devons vivre avec nos moyens. Donc, un bon exemple pour cette année, si vous voyez le budget qui a été publié, vous verrez qu'il y a un cent de plus que nous avons placé dans les dépenses, donc qui surpasse les revenus. C'est l'équipe de finances et notre PDG prend ça très à cœur. Et c'est très difficile parce que chaque département veut plus d'argent et on leur dit non. On leur dit il faut qu'on vive avec nos moyens et il faut que l'on contrôle cela. D'autre part, au sein du budget, nous mettons des limites aux dépenses de chaque département. Nous mettons en place une limite. Et ainsi, nous pouvons avoir un budget intermédiaire, si vous voulez, pour pouvoir faire face aux imprévus qui pourraient arriver à travers l'année. Ainsi, nous pouvons faire face. Donc, nous mettons une limite au budget et nous devons vivre avec nos moyens. Et en troisième, nous faisons un suivi et nous faisons des corrections. Par exemple, en juin, après l'approbation du budget, je pense que c'était en août ou en septembre, nous avons réalisé que les revenus pour l'année allaient baisser à 10 millions, de 10 millions. Donc, nous avons parlé avec la gestion, la direction, et ils ont coupé les coûts par 12 millions, de 12 millions. En fait, même plus que ce qu'ils auraient dû faire. Donc, nous voulons être sûrs de ne pas être dans une situation de perte, si vous voulez. Donc, il y a du suivi, des actions sont prises, des actions de correction sont en place, l'équipe de FADI... L'équipe de direction est très stricte sur le coût pour pouvoir nous assurer qu'il n'y ait pas de problème de revenus. Et durant l'année, de façon collective, pour ne pas dévier du budget, Et pour ne pas commencer de nouvelles initiatives au milieu de l'année, nous savons que le budget ne pourra pas financer tel ou tel projet, par exemple. Nous avons eu cette situation. Ces deux dernières années, nous avons eu la transition à financer. Donc, ça a été une situation unique. Nous n'allons pas avoir une transition tous les ans pour le reste de notre vie. Donc, nous avons fait face et nous avons écouté toutes les discussions des SO, des AC, à propos des coûts engagés. Il y a donc une intention dans la communauté d'adresser ces coûts dans l'avenir. Nous ne pouvons pas nous embarquer dans des projets sans savoir quels en sont les coûts. Donc, voilà les quatre ou cinq choses qui devraient vous donner un peu une idée, une réassurance que nous devons être économes. Nous ne pouvons pas dépenser plus que nous faisons et nous ne voulons pas augmenter nos frais, nos coûts. Michael est au micro. Nous voulons parler de la diversité. Vous savez que c'est un sujet qui est arrivé sur la table, qui génère énormément de discussions. Paul Diaz, quand il s'agit de la diversité, la question de la diversité, Michael est... Rachel, au micro. Merci de la question. Nous sommes très heureux de pouvoir commenter là-dessus. De la part du groupe des opérateurs de registre, je voudrais vous dire que nous représentons 90 membres à travers le monde et que nos membres suivent le montant exact et les pourcentages exacts des 1930 candidatures que nous signons dans cette série de nouveaux GTLD. Nos membres, malheureusement, et la diversité qu'elles représentent est limitée par le fait que nos opérateurs de registre doivent être membres. Pour la prochaine série, nous allons devoir trouver une manière d'augmenter la diversité à travers les parties prenantes et donc nous assurer que les processus pour la prochaine série soient faits à temps pour ainsi attirer une candidature de la part d'applicants de candidats variés. Je voudrais soumettre ça à des commentaires. Samantha, au micro, je voudrais remercier le conseil d'administration pour les efforts qui sont faits pour nous assurer que malgré que l'univers des membres soit bien limité, que nous essayons tout de même d'atteindre tout le monde pour avoir de plus en plus de diversité. Je voudrais remercier notre personnel de support qui travaille très dur pour s'assurer que tous les opérateurs de registre, quand une fois signés, reçoivent les informations nécessaires à leur participation. Et aussi les informations pour qu'ils puissent participer. Ils ont fait du bon travail pour que leur site web soit très accessible, soit très facile à utiliser pour les nouveaux venus. Et nous pensons que cela a aidé énormément. Jusqu'à cette réunion, pour nos frais de transport, pour l'ICANN, nous avions 5 parties de budget pour nos groupes. Les participants avaient des critères à remplir pour ce qui est du programme des boursiers. Nous avons fait une demande à l'ICANN pour pouvoir retirer ces restrictions de critères pour les deux prochaines prochains voyages, disons. Nous voulons nous assurer que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes qui reçoivent du financement, que ce soit des gens qui viennent de zones différentes, qui ne soient pas forcément de la zone Amérique du Nord ou de la zone Europe. Pour répondre à cette question, que peut faire le conseil d'administration à ce sujet? Assurez-vous, si vous voulez bien, d'approuver cette requête de financement. Et si vous pouviez allouer, nous voulons donc allouer ces financements aux gens qui en ont besoin. Et vous voulez que je pose mes questions en premier ou vous voulez passer au bureau d'enregistrement en premier? Je vais passer le micro à Darcy, qui est du bureau d'enregistrement. De la part du groupe des bureaux d'enregistrement, je peux vous dire que nous avons complété un sondage pour étudier notre propre diversité. Nous nous sommes rendus compte que nous étions dans 31 pays, mais qu'il y avait des bureaux d'enregistrement dans 68 pays. Nous voulons voir comment nous pouvons les sensibiliser et nous avons vu aussi que l'anglais était la langue dominante à travers nos bureaux d'enregistrement. Nous avons fait beaucoup de travail cette année pour participer avec la CAN pour nous préoccuper de ce problème. Ils nous ont aidés en ce qui concerne la traduction. Le personnel de l'ICANN peut vous aider, nous a aidés à faciliter ce processus dans toutes les régions. Nous avons aussi deux portions de voyage, deux places pour des nouveaux boursiers. Nous avons aussi demandé à ce que les critères soient changés pour que tout le monde puisse participer. Je pense que la barrière des langues pour les bureaux d'enregistrement est très importante. Nous demandons que l'on nous assiste au niveau de la traduction, que ce soit pour les commentaires publics, que ce soit pour les documents clés qui nous aideraient à aider la communauté de l'ICANN à mieux comprendre et qu'ils puissent mieux participer et aussi que nous-mêmes, nous pourrions les utiliser. Nous, les liaisons au personnel ICANN, pourrions les utiliser aussi pour communiquer entre nous. Jennifer, mes pères pourraient partager plus d'informations en ce qui a été fait au sein de la Chambre des parties contractuelles. Lorsqu'il s'agit de la sensibilisation, il y a une diversité au niveau géographique des races et des genres. Nous pouvons bénéficier du fait que nous pourrions avoir une meilleure compréhension de la structure qui est en place en ce moment. Il faudrait mieux comprendre les clés, les indicateurs clés. Chaque partie prenante fait de la sensibilisation de son côté sans le support de ses centres, ses bureaux de liaison. Nous aimerions voir quel sera le rôle de ces bureaux de liaison dans l'avenir. Comment est-ce qu'ils vont avoir un impact? Comment ils vont pouvoir s'engager avec les communautés pour justement élargir la sensibilisation dans chaque pays, par race, par zone géographique et par genre? Ah, Rachel, au micro. Je vais passer le micro à Stéphane. Stéphane, au micro. Une des choses que les opérateurs de registre pensent qui pourrait aider, quand nous vous avez demandé que pouvons-nous faire pour aider, que peut faire ICANN pour aider, nous voulons répondre à cette question. Nous pensons qu'il y a deux domaines, deux communautés pour lesquelles auxquels nous pourrons parler les opérateurs de registre, les titulaires de noms de domaine et d'autres personnes qui pourraient devenir des parties contractuelles. Cela a un effet à deux voies, si vous voulez. Si on considère les noms de domaine comme une identité qui pourrait aider les choses pour plus de personnes, plus d'utilisateurs finaux, et que cela puisse amener plus de personnes dans cette communauté, pas seulement, mais aussi donner la possibilité à des personnes d'avoir une identité en ligne. Cela peut aider à la diversité dans le secteur commercial. Nous pouvons amener plus de sociétés, plus de commerce, par exemple de régions qui ne sont pas aussi privilégiées. Nous voulions apporter ces points à votre attention. Rachel, le micro, nous apprécions la question. Merci Stéphane. Quand on parle de cela. On se demande s'il y a une inquiétude spécifique qui a amené cette question. S'il y a quelque chose qu'on puisse mieux adresser avec une réponse. Laki a un commentaire à faire et ensuite nous passerons la parole à quelqu'un d'autre. Laki, quand nous parlons de Laki Masilala, je suis sud-africain. Si je peux revenir en arrière, quand on parle de diversité, il faut dire qu'il faut comprendre les effets critiques de cela. Tout d'abord, il faut que les coûts ne soient pas aussi grands pour pouvoir participer. Ce qui est clair quand on parle de frontières, de économiques, disons, nous savons que internationalement, nous sommes des pays qui se croisent et où nous avons tous des monnaies différentes. Les taux de change sont très importants. Et là, ça devient un problème important pour que tout le monde puisse être capable de participer financièrement. Par exemple, en Afrique du Sud, pour nous, nos transactions sont faites en rand. Et le taux de change du rand, c'est 1 dollar pour 15 rands. Cela veut dire que les coûts que nous payons à la CAN sont 15 fois plus cher, et cela rend les choses très difficiles et très chères. Il est donc très cher, c'est très cher pour nous de participer. Aussi, il ne s'agit pas seulement de payer ou de ne pas payer, mais nous devons voir quels sont les problèmes de coûts. Cela crée des problèmes de diversité et cela complique encore la diversité quand on veut parler de diversité. C'est un sujet que nous aimerions que le conseil d'administration de l'ICANN considère. Ce n'est pas que nous ne voulons pas payer ou payer. C'est la question reste celle-ci. Comment pouvons-nous déplacer ou bouger ces obstacles de diversité?
Steve au micro. Merci beaucoup, Laki. Vous nous avez fourni une partie de la réponse, en tout cas à la question que j'avais à l'esprit lorsque je vous écoutais. Et d'ailleurs, j'aimerais un petit peu élargir la perspective là-dessus. Du point de vue de l'ICANN, nous avons cherché à trouver un certain nombre de solutions pour faciliter le processus, pour que les choses soient plus accessibles et utilisables par différentes régions du monde. Pour certaines de ces choses, elles peuvent être utiles. Pour d'autres, c'était une bonne idée peut-être à la base, mais elles n'ont pas forcément amélioré la situation. Je vais vous donner un exemple de ces deux choses. Donc, par exemple, nous avons nos quartiers généraux qui sont présents partout dans le monde, donc dans trois régions du monde, pour justement permettre d'avoir des contrats dans les lois locales, plutôt que tout se rapporte aux lois américaines. Je crois que nous avons également pris des dispositions pour faire des transactions dans les monnaies locales. Mais il est peut-être vrai que ce n'est pas simplement de traduire en monnaie locale. Il y a d'autres ajustements qui sont nécessaires. Nous avons beaucoup travaillé aux capacités linguistiques, par exemple, de manière à ce que nous puissions communiquer de manière efficace à ce niveau-là. Alors, par contraste, lorsque nous avons lancé le programme des nouveaux GTLD il y a un certain nombre d'années, il y a eu beaucoup d'efforts assez rapides pour fournir des subventions aux pays en voie de développement. Je ne me souviens plus quel était le sigle qu'on utilisait. Il y avait JAZZ. Soutien conjoint aux candidats. C'était JAZZ, donc. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas eu d'impact énorme. Il y a eu très peu de demandes de candidature. Et je dois vous le dire, même sans faire de déclaration officielle, le coût de mettre en place un registre de premier niveau est bien supérieur aux frais de candidature. Donc même si on éliminait tous les frais de candidature, il y aurait eu encore une énorme partie du coût qui dépendait donc de cette mise en place ou qui découlait de cette mise en place du registre. Donc l'intention était bonne, mais finalement elle n'a pas été très efficace, cette initiative. Et je ne sais pas si ceci s'est effectivement produit. Il y a eu une préoccupation relative au fait qu'on voit beaucoup de choses qui sont faites, par exemple, aux États-Unis, beaucoup d'expériences. Selon lesquelles on essaye de promouvoir différentes minorités, les femmes, différentes races, etc. Et il y a certaines dispositions qui donc permettent de soutenir ces groupes. Et dans le contexte dont nous parlons aujourd'hui, je crois que le cauchemar, ce serait d'avoir... Par exemple, la situation suivante, il nous faut absolument avoir un certain nombre de candidatures de la part de ces pays. Donc, on aurait toutes ces candidatures, mais quand on regarderait derrière, on se rendrait compte que l'argent vient du monde développé. Et en fait, c'est une forme de colonisation, de nouvelle colonisation. Donc, la question est difficile. La structure nécessaire est difficile à mettre en place de manière à ce que vraiment ça marche. Et donc, une des suggestions intéressante, eh bien, c'est donc d'évaluer toutes ces possibilités. Et il n'y a aucune garantie de réussite. Tous, nous pensons qu'il serait bon d'avoir des opérateurs de registre et des bureaux d'enregistrement qui soient bien représentés dans le monde entier, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus important pour un pays ou pour une région spécifique. Donc je crois que c'est une question de fond et nous devons réellement prendre en considération ce qui est nécessaire, ce qui pourra fonctionner, et il nous faut distinguer le travail qui a été fait des résultats qui ont été obtenus. Autre intervenante au micro. Merci beaucoup, Steve. Je crois que nous avons peut-être justement bien répondu à cette question grâce à vous. Nous avons ensuite Rob. Rob, micro. J'aimerais parler de deux choses pour donner un peu de couleur à cette question. Et j'aimerais parler d'un autre type de diversité. Donc, premièrement, pour ce qui est de la couleur et des déplacements des boursiers, je ne suis pas sûre que c'est ce à quoi vous entendez. Ce n'est pas une question de géodiversité, comme on vient de le dire. Bon, moi, par exemple, j'habite à Barbade et nous avons des bureaux d'enregistrement là-bas. Nous avons également un bureau qui est dans les îles Caïmans, qui est dans la liste. Et je ne vais pas vous dire « donnez-moi de l'argent ». Donc, ce n'est pas le fait que les opérateurs de registre n'ont pas de personnes présentes dans ces endroits, mais c'est plutôt les personnes qui sont bien financés et qui n'ont pas nécessairement besoin de cet argent. Et cet argent doit aller à quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément dans cette géographie spécifique et qui en a besoin. Donc, je crois qu'il faut, faire attention. Il y a des personnes dans ces lieux qui n'en ont pas besoin et qui souhaiteraient que l'argent soit dépensé différemment pour quelqu'un d'autre. Alors, pour ce qui est de l'unité constitutive des opérateurs de registre et de ces pratiques de la diversité, nous traitons la diversité un petit peu différemment. Nous avons parlé du genre et des ONG, etc. Mais il y a aussi une diversité dans le milieu des affaires. Donc, j'ai observé les unités constitutives, la manière dont elles s'occupaient de cette question. Pour d'autres, donc, il y a des comités d'adhérents qui passent en revue votre demande. Et dans la nôtre, nous n'avons pas ça. Si vous avez signé un contrat avec la CAN, très bien, vous êtes bienvenue, vous êtes entrée. Nous avons également d'autres intérêts. Nous avons des sous-groupes. Donc, nous avons tout un groupe de candidats qui ne correspondent pas nécessairement à cela parce qu'ils n'ont pas de contrat avec l'ICANN. Et donc, notre unité constituée a créé le NTAC. Et dans les marques, ils ont dit, oui, notre intérêt est différent, donc on va avoir un sous-groupe. Donc, on va avoir les géos qui font la même chose. Alors, j'aimerais que d'autres unités constitutives de l'ICANN suivent celles des opérateurs de registre et qu'ils nous disent, bon, vous avez une diversité au sein de votre groupe, comment allez-vous vous en occuper? Donc, nous avons des intérêts diversifiés dans notre propre unité de représentants. Alors, excusez-moi, j'ai encore un commentaire à faire. Nos produits sont également très diversifiés. Je crois que l'ICANN doit faire son possible pour alimenter un flux d'innovation plutôt que de restreindre dans les délais les produits. Nouvel intervenant au micro. Je vais en fait passer la parole à la première personne dans la liste. Jordi, avec Google. Steve, je crois que vous avez effectivement eu une excellente intervention. Les problèmes, ce ne sont pas les coûts, mais il y a également d'autres chose en matière de budget. Alors, j'aimerais insister sur un point. Cela n'est pas inévitable. Je crois qu'il y a un certain nombre de limites, de contraintes qui existent dans le processus de candidature qui veulent dire que ceci représente un enjeu pour les candidats. Donc, par exemple, l'instrument d'amélioration continue. Donc, il faut avoir une certaine somme d'argent ou un crédit, etc., pour opérer un bureau, un registre. Pour Google, c'est beaucoup moins cher. Pour Google, c'est beaucoup moins cher que pour d'autres. Surtout dans un pays où il n'y a pas de très bons services bancaires. Donc, si le registre a du mal, eh bien, parfois, il faudrait que l'ICANN aide les candidats. Autre chose, pour ce qui est des candidats qui ont réussi au jour d'aujourd'hui, ils ont dû utiliser de grandes infrastructures d'opérateurs de registre. Et donc, l'implication, c'est qu'il faut avoir en fait un historique de réussite au sein de ces plateformes. Et donc le résultat, c'est qu'on voit pratiquement toutes les demandes d'opérateurs de registre qui utilisent des plateformes qui en fait n'étaient pas abordables pour des personnes autre part dans le monde. Donc il y a des programmes qui fonctionnent pour tous. Et donc il faudrait que l'ICANN puisse créer un processus d'enregistrement. Ensuite, également un programme incitatif pour aider au coût. Donc, il y a un certain nombre de choses que l'ICANN pourrait faire de manière à ce que les choses soient plus accessibles, soient plus abordables. Il y a des obstacles qui peuvent être éliminés. Je crois que l'état des choses n'est pas inévitable. Je crois qu'il y a des solutions. Alors, question de suivi. Steve au micro. Effectivement, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, mais est-ce que tout ceci est inclus dans notre approche, notre étude sur le choix, la concurrence, etc., la confiance du consommateur? Intervenant dans la salle. Oui, effectivement, l'AOC demande au CCTLD de considérer le processus de candidature dans le cadre de sa charte, et donc on essaie de considérer quels ont été les obstacles à la participation des différents candidats dans différentes zones géographiques. Steve au micro. Donc, je vous encourage en ce sens donc, de vraiment documenter tout ceci, de nous donner des faits, parce que je crois que ce sera énormément utile. Intervenant dans la salle, oui, je suis tout à fait d'accord. Je veux bien. Autre intervenant dans la salle, Edmond Chung. Je voulais répondre, Steve, à ce que vous aviez dit. Je crois qu'il est un peu prématuré de dire que les programmes d'assistance financière n'ont pas fonctionné du tout. Il y a des raisons pour lesquelles cela n'a pas fonctionné. Il y a une question de calendrier, de sensibilisation, etc. Et dans l'un des programmes qui était le précurseur du programme Next Gen de l'ICANN actuel, il y a justement eu des discussions là-dessus spécifiques qui ont donné lieu à des suggestions très intéressantes pour que le programme fonctionne. Donc je ne pense pas que nous devons complètement rejeter tout ceci. Il faudrait un peu passer les choses en revue. Cela pourrait être utile à l'avenir pour les séries suivantes en termes de diversité. Deuxièmement, je crois que pour ce qui est pour ce qui a trait à la question d'acceptation universelle, c'est très bien parce que nous devons continuer de sensibiliser non seulement pour les nouveaux GTLD, mais aussi pour les nouveaux CCTLD, CCTLD IDN en particulier, de manière à ce qu'il y ait une participation au sein de l'ICANN, une participation accrue, parce que ça peut être simplement la chose que les utilisateurs finaux connaissent sur l'ICANN et qu'ils comprennent. Ils comprennent la question et donc ils seront attirés et viendront participer à l'ICANN. Troisièmement, en termes de diversité, la GNSO et l'unité constitutive des opérateurs de registre, lors d'une révision des rapports récents, a vu une suggestion d'amélioration de la diversité. Mais c'est très difficile à mettre en œuvre. Il y a eu d'ailleurs l'APAC ad hoc, donc, qui a suggéré certaines choses. Et donc, il faudrait voir un petit peu quels sont les potentiels, quelles sont les suggestions qui ont été fournies. Et il est important, bien sûr, de considérer la diversité géographique, mais aussi la diversité culturelle. Donc voilà un petit peu les commentaires que je souhaitais faire. Pardon. Merci. Stéphane, allez-y. Stéphane au micro. Donc, je voulais ajouter deux commentaires personnels. Rob, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez utilisé le mot « innovation ». Et je crois que c'est très important, puisque lorsqu'on parle à la Chambre des parties contractantes, on essaie toujours donc d'utiliser le programme des nouveaux GTLD. On essaie d'utiliser les opportunités que nous avons pour rejoindre d'autres entreprises dans le monde pour que ce soit des opérateurs ou des bureaux. À l'ICANN, il faut s'assurer que nous travaillons tous sur pied d'égalité. Et ceci inclut les frais, les complexités du contrat, les langues. Je sais que l'ICANN a énormément travaillé pour avoir des bureaux grâce à FADI dans le monde entier. Mais je dirais qu'en tant qu'entreprise, si je parle pour moi-même, en tant que francophone, français, ce n'est pas très facile de traiter avec l'ICANN du point de vue contractant. Et comme je suis quand même un opérateur de registre relativement petit, il y a vraiment des choses à revoir dans le système. Autre chose, si on élargit un petit peu la question, qu'on ne se limite pas à la chambre des parties contractantes, que pouvons-nous faire pour aider la diversité? Mais je ne devrais peut-être pas le dire, mais une des choses qu'on devrait considérer, c'est est-ce qu'on devrait avoir une diversité d'intervenants? Parce que si on regarde bien, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes personnes qui traitent de ce sujet. Et encore une fois, bien sûr, il y a la langue. Et bien sûr, il y a la personnalité, parce que c'est mieux de ne pas être quelqu'un de timide pour faire une présentation au micro. Mais lorsque je mets mon autre chapeau, donc quelqu'un du NAMCOM, lorsqu'on parle à des personnes qui sont de l'extérieur, encore une fois, l'environnement est intimidant. Nous n'avons donc pas la diversité, nous avons simplement toujours les mêmes personnes qui reviennent. Alors, la queue est vide. Il n'y a personne qui attend pour parler. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent parler? Nouvel intervenant en micro. Je vais parler rapidement. En ce qui concerne la diversité, je crois que c'est une question très intéressante. Donc, Michele au micro. Nous en avons parlé au sein des deux groupes. Nous avons des enjeux. Il y a un peu de diversité, mais il y a des problèmes. Nous avons mentionné ceci rapidement, mais j'aimerais quand même le rementionner parce que c'est quelque chose de très important. C'est la question de la langue. Ce n'est pas simplement une question de traduction de l'anglais à d'autres langues. C'est aussi une question de savoir comment on présente les idées, le choix de la langue, le choix des termes, le contexte. Et très souvent, le fait est que les documents de l'ICANN sont publiés, qui pourraient avoir un impact très large sur l'écosystème, mais la langue qui est utilisée pour les décrire est inaccessible. Les choses ne sont pas claires. Pourquoi est-ce que ceci est important pour telle ou telle partie prenante? Pourquoi est-ce qu'un opérateur, un bureau ou autre entité doit s'intéresser à tel document? Il n'y a personne à Marrakech. J'imagine que c'est la première fois que ces personnes sont présentes. C'est très bien. On est très heureux. Mais est-ce qu'on ne va pas leur faire peur à ces personnes? Est-ce que vous souhaitez les revoir lors d'autres réunions? Je me souviens, l'autre soir, je discutais avec un Marocain du coin qui me disait qu'il était allé à un certain nombre de séances et que les choses étaient tellement abstraites, tellement universitaires, tellement hautes, et tellement séparées de l'économie numérique, des questions avec lesquelles il était confronté, qu'il était vraiment difficile d'entrer en lien avec tout ceci. Et pour ceux d'entre nous qui participent à plusieurs réunions de l'ICANN, bien sûr, moi, j'ai un poste qui me permet de signer ma propre note de frais. Donc, ce n'est pas un souci. J'ai une grande entreprise. Mais il y a beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas le même type de ressources en personnel, en financement, etc., et qui souhaiteraient faire partie de la communauté. Donc, si réellement la diversité est quelque chose qui est important pour l'ICANN, du point de vue global en tant qu'organisation, eh bien, je pense qu'il faut absolument bien choisir les termes utilisés, le langage utilisé, et je parle non pas au nom des bureaux d'enregistrement, mais en mon propre nom. Autre intervenant au micro. Merci, Michele. Jonah Austin. Donna Austin, je crois qu'un des obstacles à la diversité en termes de groupe de travail, lorsque nous parlons souvent lors des appels téléphoniques à différents moments, c'est la question des fuseaux horaires. Donc il y a deux processus d'élaboration de politique de la GNSO qui auront lieu pendant à peu près 2 ans. Et donc nous avons quelqu'un qui habite à Melbourne, j'ai une collègue qui, je crois, a prévu 9 ou 10 appels de conférence pour le groupe, qui seront à 3 heures du matin, à 3 heures du matin, à 14 heures, à 3 heures du matin, à 3 heures du matin, à 3 heures du matin et à 14 heures. Alors, ce n'est pas durable. C'est un problème que nous avons pour cette personne, donc. Et donc, bien sûr, au fil du temps, nous allons perdre les personnes qui sont affectées de cette manière. Donc, il nous faut trouver un moyen de nous assurer de ne pas perdre les personnes qui sont dans des fuseaux horaires qui ne fonctionnent pas pour l'Amérique du Nord et pour l'Europe. Et donc, j'aimerais ajouter encore un petit point sur la réunion B, qui est donc une rencontre pour les politiques, c'est justement l'opportunité de rassembler tout le monde pour parler d'un sujet relatif aux politiques, comme quoi les fuseaux horaires ne devraient pas poser problème. Merci. Merci, Donna. Allez-y, monsieur.
James Bledo, je voudrais suivre ce que Donna a discuté sur les fuseaux horaires. Une des nouvelles procédures que nous avons adoptées au GNSO, puisque nous avons beaucoup de personnes qui sont en Australie et qui sont à Singapour, donc nous avons essayé de rassembler tout le monde sur un fuseau horaire et cela fonctionne. Je suggère donc que les autres groupes de travail puissent adopter une méthode similaire. Parce qu'à la fin, ce qu'il faut faire, c'est faire une rotation des réunions. Ainsi, tout le monde sait exactement quand il est temps pour eux de se lever au milieu de la nuit. Donc, pour nous, ça semble fonctionner jusqu'à présent. C'est une autre dimension de diversité, voyez, ces fuseaux horaires. Donc nous avons trouvé une manière de faire face. Michele Leyland au micro, une petite intervention. Je suis moi aussi, je participe à plusieurs groupes de travail techniques un peu partout. Il n'y a pas de conférence téléphonique. Nous faisons le travail par courriel. C'est une des choses que je trouve qui est un peu curieux parfois. Beaucoup, très souvent, nous parlons, nous discutons de textes et dans certains cas, il semble qu'il y a beaucoup trop de réunions au lieu de discuter et d'adresser les points par courriel. Encore une fois, ces fuseaux horaires, ça représente un problème pour beaucoup de gens. Quand je parle à mes collègues des bureaux d'enregistrement, ils savent très bien qu'il y a un problème pour que tout le monde soit disponible à la même heure. Vincent, oui, la file au micro est vide. Il n'y a personne au micro qui attend de prendre la parole. Je vais donc passer le micro à Paul pour qu'il termine avec cette réunion. Non. Alors, au micro, une autre personne dans la salle. Eric Hamann, j'ai une question pour vous. J'ai vu qu'il y avait... avec ce que la Spam House avait présenté à propos des pires domaines de premier niveau. J'ai lu la déclaration qui t'avait faite auparavant aussi, mais j'aimerais qu'on fasse, on me donne un peu plus d'informations là-dessus. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a quelque chose là que nous devons prendre au sérieux? J'ai fait ma petite enquête et on m'a dit que oui. Et la deuxième méthodologie utilisée, c'est une méthodologie que vous allez soutenir ou est-ce que vous pensez qu'on devrait utiliser une autre méthodologie? J'ai parlé avec Akram et à David. Je sais que l'on recherche des informations plus détaillées avec le personnel. Le nouvel intervenant, Paul Diaz, pardon. Est-ce que quelqu'un peut parler? Parce que je n'ai pas vu la révision du rapport. Ruben, je fais partie du groupe des bureaux d'enregistrement. Voilà. Cela n'est pas limité à un seul groupe d'acteurs ou cela n'est pas considéré comme de l'abus puisqu'il n'inclut pas des juridictions non légales. Spam House, comme leur nom l'indique, n'observe seulement que le spam. Pour les... Oui. Pour ce qui est des opérateurs de registre, le problème a l'air plutôt limité. Mais quand il s'agit de cette question spécifique qui est le spam, j'ai l'impression que c'est lié avec les TLD qui sont qui sont peu chers. Cela ne s'applique pas aux GTLD. Quand on voit les CCTD ont des enregistrements qui sont gratuits ou peu chers, dans ces cas-là, le problème est en corrélation avec ce qui se produit en général. Mais c'est vraiment une vision très, très étroite de l'industrie. Michele Leyland, je peux en parler. Rob, voulez-vous parler en premier? Robert Hall, oui, nous avons répondu à cette question. Pour répondre à cette question, je vais en étudier les détails. Le problème, c'est qu'il faut parler des pourcentages pour voir qui est le pire. Je pense qu'il y a 43 enregistrements. Donc, disons qu'on est le deuxième des pires des enregistrements. Parce que, est-ce que cela nous donne donc une idée exacte de ce qui se passe? Il y a beaucoup plus de spam qui vient des TLD Legacy par rapport à ce qui venait, par exemple, dans le passé à Point D Diet. Mon Dieu, quand on dit 70% sont mauvais, PointReview avait 40 et quelques enregistrements, si je me souviens bien. Ce ne sont pas des problèmes, un nombre de problèmes très important. Même s'ils essayent de démarrer leur TLD rapidement, ce n'est pas seulement une question de coût, mais ou la façon avec laquelle ils sont en train de faire la promotion de leurs produits. Ils essayent de faire un bon travail pour résoudre ces problèmes, mais les pourcentages sont souvent bas pour eux puisqu'ils ont des millions de domaines. Donc, je vous dis de faire très attention et d'observer les données qui sont récoltées. Il faut faire la part des choses. Mickey Leland, j'ai deux, trois choses à dire. En premier, ma compagnie, par exemple, nous travaillons de façon très rapprochée avec Spam House. Et personnellement, je peux vous donner une vision assez simple de l'abus DNS. La méthodologie utilisée est limitée. Il y a des indicateurs de type d'abus. Et il y a aussi, par exemple, des questions importantes pour le span avec GoDaddy, puisque GoDaddy a des tonnes de domaines. Ils ont un gros problème. On a l'impression qu'ils ont un gros problème, mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez une zone qui a que quelques noms, ce n'est plus un gros problème, nécessairement. Donc, la méthodologie utilisée doit être vérifiée. Et puis, ainsi, je pourrais dire que je ne vais pas dire que tout cela est mauvais. Je peux vous dire qu'il faut qu'on discute avec Spam House pour voir sur quoi ils se basent, pour voir ce qu'ils veulent essayer de faire. Dans l'industrie, beaucoup de personnes dans cette salle, à cette table, ont participé à des initiatives variées ces dernières années pour essayer de faire face à ces problèmes d'abus. C'est pas que nous voulons faire du mauvais commerce. Je ne sais pas exactement ce que vous recherchez, Rika, mais je pense que tout le monde veut essayer de travailler sur ce problème. Jeff Newman au micro. Je parle en mon nom propre. Si vous regardez cette liste, vous allez voir que beaucoup de gens, beaucoup d'entités sur cette liste sont des sociétés qui sont reliées. Donc, il faut prendre ça en compte. Il y a plus d'enregistrements. Vous avez dit qu'il y en avait 104, mais en fait, il y en a des 1000 dans ces TLD. 100 000 dans ces TLD. Donc, c'est quelque chose que les CCT devraient vérifier. Et puis, je pense vraiment que cela devrait être analysé dans les révisions, mais ce n'est pas indicatif de mauvais comportement dans l'industrie. Peut-être y a-t-il un ou deux acteurs qui sont inclus dans cette question. Michael est au micro. Est-ce que cela répond à votre question, Erika? Erika, oui, je vais continuer à enquêter. Il serait donc bon de pouvoir communiquer afin que je puisse mieux comprendre. Un gouvernement m'a donné les informations, mais j'aimerais aussi avoir le point de vue du conseil d'administration. Si vous avez des informations que vous pouviez nous envoyer, s'il vous plaît, envoyez-les-nous, surtout si vous avez des recommandations sur le fait que ICANN devrait être inclus dans ce processus. Si quelque chose peut être fait. Donc, envoyez-moi les informations et ainsi je les enverrai à mes collègues. Michael est au micro. Oui, c'était très utile. Je voulais juste dire rapidement, quand il s'agit de la partition avec notre conseil d'administration par le passé, quand on parle de la part des bureaux d'enregistrement, vous savez qu'au préalable, nous avons eu des participations avec les forces de l'ordre qui portaient à conflit. Quand il s'agit du groupe d'élaboration politique. Hier après-midi, nous avons eu une réunion et la salle était très pleine, d'ailleurs, parce que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait des feux d'artifice. Je suis désolée de vous dire qu'il n'y en a pas eu. Et dans ce cas-là, c'était donc un point positif et non un point négatif. Nous essayons d'être un peu plus collaboratifs et de travailler ensemble entre nous et les forces de l'ordre. Je voulais juste vous donner cette information puisque c'était un sujet assez chaud au préalable. Steve, avez-vous quelque chose à rajouter? Oh, il y a autre chose. Pour la deuxième question que vous avez posée, nous n'y avons pas répondu pour une seule raison. Nous n'avons pas de suivi d'informations. Nous n'en avons pas discuté. Nos conseillers sont heureux avec nous. Nous sommes donc heureux. À moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à rajouter là-dessus. Steve, je vous passe le micro. Steve croit que pas d'autre chose à dire de ma part. Bruce, Sharon, tout le monde va bien? Si on a terminé, dit Sharon Shilade, je sais que Fadi sera beaucoup bien félicité par la suite. Oh, il est là? Oui. J'étais dans l'équipe de négociation des bureaux d'enregistrement pour le RAA. Il est venu en tant que nouveau PDG dans un processus qui durait depuis des années. Et c'était vraiment un tas de problèmes. Il est arrivé, il nous a aidés à finaliser le projet. Et nous, en tant que communauté, nous devons lui dire merci parce qu'il est entré dans un processus difficile et il a réglé le problème tout de suite. Il est venu nous voir tout de suite alors que nous nous réunissions sur ce problème depuis longtemps. Donc, il est donc approprié aujourd'hui de dire merci. Steve Crocker, avant de faire ça, quel était le secret? Quel est le secret? Johan veut savoir. Rob Hall au micro. En fait, il s'agissait de leadership. Nous voulions être capables de questionner l'équipe de l'ICANN en leur disant pourquoi ne pouvons-nous pas faire telle ou telle chose? Parce que ceci est logique. Il est arrivé, il nous a dit, voilà, nous nous prenons les pieds dans cette histoire de legacy, de leg. Il nous a dit, ça n'a aucun sens. Il nous a expliqué comment clarifier ce problème. Il nous a aidé à régler le problème assez rapidement, en 2 mois en fait. C'était incroyable. Sa leadership était incroyable. Nous voulons vraiment reconnaître ce fait et vous féliciter. Vous nous avez rendu un très grand service. Steve Crocker, de la part de Fadi et du conseil d'administration, nous vous en remercions. Michele, Leyland, je pense que nous avons terminé. Paul, avez-vous des mots de clôture? Steve Crocker, nous n'avons pas utilisé tout le budget. Nous allons donc remettre ça dans la réserve. Encore une blague qui n'a pas marché.